Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, suite à mon sermon de dimanche dernier, quelqu'un d'entre vous m'a demandé d'exposer l'action du Saint-Esprit dans l'âme. Je pourrais vous faire un exposé théorique et théologique sur ce sujet, mais je trouve que cette action du Saint-Esprit est très bien illustré et beaucoup mieux illustré dans le livre de Job, dans la vie de Job. On retient d'habitude que Job a subi de grandes souffrances, de grandes épreuves, de grandes tentations. On retient cette phrase admirable, « C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, ce comme Dieu veut, que le nom de Dieu soit béni ». Mais on n'arrive pas à un tel degré de fidélité à Dieu sans l'aide de Dieu. De plus, le livre de Job convient à toutes les périodes d'épreuves dans la vie ou dans l'Église, mais il convient particulièrement bien à la période que nous connaissons, qui est une période d'épreuves très profonde et presque universelle. Satan s'en prend à tous les fils de Job réunis pour un repas chez le fils aîné, c'est-à-dire à toutes les vertus réunies dans la foi. Il s'en prend aux filles de Job, qui sont les vertus morales. Il s'en prend au travail de Job, et donc au travail de l'Église. Ce sont les bœufs qui labourent. Il s'en prend aux ânes humbles. Il s'en prend aux serviteurs chargés de veiller sur l'Église. Il s'en prend aux douces brebis. Il s'en prend aux chameaux chargés des soucis temporels. Il s'en prend à la maison dont il ébranle les quatre piliers, les quatre coins. Je ne suis pas là pour vous faire la description des malheurs de l'Église aujourd'hui, ça n'aurait pas grand intérêt. Et si je vous dis cela, c'est pour vous montrer l'actualité du livre de Job, et par conséquent, l'actualité de la solution du problème que le livre de Job apporte, que le Saint-Esprit apporte en nous révélant ce qu'il a fait dans l'âme de Job. Première partie du sermon, c'est Dieu qui provoque le démon à tenter Job. Dieu dit au démon, « D'où viens-tu ?» Et le démon lui répond, « J'ai parcouru toute la terre, cherchant des hommes à faire tomber, bien entendu. » À ce moment-là, le démon ne pense pas particulièrement à Job, et c'est Dieu qui le lui fait remarquer. « As-tu vu mon serviteur Job ? Simple, droit, craignant Dieu, fuyant le mal ?» Le démon répond, « Je ne risque pas d'avoir du succès auprès de lui, vous le protégez, Seigneur. » Et le Seigneur répond, « Eh bien, sois. Je le livre entre tes mains à condition que tu ne le touches pas, lui. Tu ne touches qu'à l'extérieur de lui. » Cela va plus loin. Lorsque le démon décidera, pour mettre à mort tous les fils de, et les filles de Job, de faire tomber le feu du ciel sur sa maison où tous les enfants sont réunis, le démon n'aurait pas pu prendre le feu du ciel si Dieu ne lui avait pas donné. Et nous nous apercevons de deux choses. Tout d'abord qu'il ne s'agit pas d'un combat entre le démon et Job, mais beaucoup plus d'un combat entre le démon et Dieu. Et deuxièmement, on constate que Dieu autorise Satan à prendre comme arme celle même que Dieu lui donne. Et même plus, puisqu'il l'autorise à tenter Job, on a l'impression que Dieu donne à Satan un certain pouvoir, et ce n'est pas une impression, c'est une certitude. Il faut donc, mes bien chers frères, ne pas nous étonner qu'aujourd'hui, dans la lutte que le démon mène contre l'Église, il se serve de choses saintes. Il y a des choses que Dieu ne mettra jamais entre les mains du démon, parce qu'il ne le peut pas. C'est sa grâce, c'est le Saint-Esprit et ses dons, c'est la vertu, qui sont des choses dont on ne peut jamais mal user. Mais Dieu n'interdit pas, et même nous constatons aujourd'hui qu'il permet aux démons de lutter contre lui par le rite de la messe, pas par la sainte messe. Le sacrement de l'Eucharistie est hors de la portée du démon. Mais le rite, oui, le démon l'a pris en main. Le démon peut lutter contre Dieu, avec la permission de Dieu, en prenant en main le pape, la hiérarchie, les familles, les pères et mères de famille. Dieu a bien permis au démon de lutter contre lui en prenant l'évangile, c'est ce qui a donné le protestantisme. Deuxième partie de ce sermon, pourquoi Dieu agit-il ainsi? Il y a deux raisons à cela, et je prends mes explications dans les commentaires de Saint Grégoire le Grand. La première raison, c'est le triomphe éclatant de Dieu sur Satan. Cette raison, nous la voyons dans la passion et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a comme remis l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ entre les mains de Satan. Sa divinité, évidemment, est totalement hors d'atteinte. Et dans son humanité, tout ce qui touche à la divinité est également hors d'atteinte. Mais l'humanité du Christ, en ce qu'elle touche à la terre, a bien été laissée entre les mains du démon. Notre Seigneur dira d'ailleurs sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Il est évident que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ opère un triomphe de Dieu sur Satan bien plus fort de cette manière que si le démon n'avait eu que des armes ordinaires. La deuxième raison que donne Saint Grégoire le Grand, c'est que l'homme a besoin d'être purifié, qu'il a besoin d'être humilié, sans quoi il court un grand danger. Mais grâce à cette humiliation, à cette purification, l'homme, s'il est fidèle, bien entendu, mais Dieu, justement, va lui donner tout ce qu'il faut pour être fidèle. J'ai lu, il n'y a pas longtemps, que la puissance du démon ne s'étend qu'à ceux qui sont volontaires pour se laisser prendre par lui. Dieu éprouve l'homme dans ses bœufs qui labourent d'un lourd travail prenant, captivant. C'est le travail attentif de l'âme. Eh bien, dans ce travail, l'âme est en danger si elle s'enorgueillit du grand travail qu'elle a fait. Satan va s'en prendre aux ânes, la simplicité de l'âne qui se laisse charger sans récriminer désigne l'âme qui, dans sa simplicité, à force de tout accepter, risque la torpeur. Satan s'en prend aux chameaux de Job. Les chameaux, ce sont ceux qui ont la charge de régir les choses de ce monde, qui ruminent le service de Dieu, ce qui est magnifique, mais qui sont impliqués dans la souillure du monde. Cette charge, si on y fait attention, peut écraser l'âme. La charge des rois, la charge des économes, la charge des pères de famille, que sais-je ? Je vous ai dit, à la suite de Saint Grégoire le Grand, que les fils et les filles de Job, ce sont les dons du Saint-Esprit et les vertus. Eh bien, Saint Grégoire nous affirme que la sécurité dans la vertu est dangereuse. Pas la vertu, bien sûr, on ne peut jamais mal user de la vertu. C'est même une de ses définitions. La vertu est ce qui rend l'homme bon et dont on ne peut jamais mal user. Donc ce n'est pas la vertu qui est dangereuse, mais la sécurité dans la vertu. Or, il faut bien reconnaître, mes bien chers frères, que cela nous concerne tout particulièrement. À cause de cette sécurité, il est très facile de cesser d'être sur ses gardes. Je me rappelle ce jeune dont nous espérions faire un animateur au MJCF, et il était plus que décevant. Alors je vais le voir, je lui dis, comment se fait-il que vous, qui avez tant reçu, qui avez passé tant d'années dans une école catholique, avec tant de prêtres, tant de communions, tant de confessions, tant de catéchismes, comment se fait-il que vous, vous soyez si lâche ? » Et il me répondit, « Monsieur l'abbé, c'est justement parce que j'ai trop reçu. » Il est facile de se croire en sécurité dans une école catholique parce qu'elle est catholique. Il est facile de croire ses enfants en sécurité parce qu'ils assistent à la messe tous les dimanches, qu'ils se confessent régulièrement et qu'ils communient. Et vous me direz peut-être, alors c'est Dieu qui est le tentateur. Oh non, ce serait un blasphème d'affirmer cela. Ce serait un blasphème parce que justement, Dieu permet de telles situations parce qu'il soutient l'homme intérieurement. Et que l'homme, dans cette situation de tentation, s'appuyant sur la grâce de Dieu, est plus fort que l'homme qui ne serait pas soumis à la tentation et serait moins pourvu en grâce de Dieu. Il est bon, petit troupeau, que je m'en aille. Ne vous inquiétez pas de ne plus bénéficier de ma présence visible, car je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit Paraclet, mon Esprit, qui procède du Père et du Fils. Que fait le Saint-Esprit dans nos âmes pendant ces dures périodes de lutte, de tentation, d'épreuve, de guerre, aussi bien dans notre âme à nous que dans l'âme de l'Église, c'est-à-dire dans l'âme des saints fidèles, des chrétiens fidèles. C'est l'esprit d'intelligence, c'est-à-dire l'esprit qui donne l'intelligence, qui maintient vive et profonde la foi dans l'âme au milieu des tentations. Le don d'intelligence a cela pour objet de maintenir la foi vive et profonde. Intelligence, comprendre les choses de Dieu, connaître les choses de Dieu. Vous ne voyez pas l'esprit d'intelligence à l'œuvre dans l'Église en ce moment? Bien sûr qu'on le voit si on est un peu attentif. Mais même si on ne le voyait pas, nous avons la révélation du livre de Job qui nous permet de savoir que, même si nous ne le voyons pas, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans l'âme, et d'autant plus à l'œuvre que, comme je vous le disais au début, il s'agit d'une lutte de Satan contre lui, le Saint-Esprit, et qu'il est évident que Satan ne trouvera aucune faille en lui. C'est l'esprit de sagesse, c'est-à-dire la sagesse donnée par le Saint-Esprit, qui par une charité profonde unit l'âme à la sagesse de Dieu face à la folie du monde. Je ne développe pas pourquoi l'esprit de sagesse est lié à la charité. C'est parce qu'il y a des choses, pour bien les comprendre, pour bien les pénétrer, pour bien en juger, pour bien les goûter, il faut beaucoup aimer. Certaines choses ne se comprennent qu'entre amis. Et le Saint-Esprit crée en nous cette amitié qu'on appelle charité tellement elle est chère, et qui s'épanouit au sommet dans la sagesse. Il la donne en nous, il la donne en l'Église. Les hommes sont fous, mais l'Église reste sage. C'est l'esprit de science qui éclaire l'œuvre de Dieu dans le monde et qui donne la véritable autorité face à ceux qui bafouent l'autorité qu'ils ont reçue. La véritable autorité descend de la sagesse de Dieu à travers la science de Dieu communiquée aux hommes. Elle éclaire, elle guide, particulièrement dans les périodes troublées. Et il serait faux de dire qu'il n'y a plus d'autorité aujourd'hui dans l'Église. Ce n'est pas possible. Par contre, ce qui est vrai, c'est de dire que ceux qui ont reçu la charge d'exercer l'autorité la bafouent, et que Dieu donne à des hommes comme Job d'avoir la véritable autorité qui éclaire les bons fidèles. L'autorité de Mgr Lefebvre, l'autorité de Mgr Williamson, l'autorité d'un simple père de famille sur sa famille, l'autorité d'un ami sur son ami, c'est ce qu'on appelle la correction fraternelle. C'est le Saint-Esprit qui donne le conseil qui fait choisir le moyen de la croix, là où le monde conseille les moyens humains, les moyens matériels, charnels et même diaboliques. La croix, moyen méprisé du monde, et pourtant le plus puissant de tous. C'est l'esprit de piété qui fait rayonner la paternité de Dieu. C'est l'esprit de force qui affronte toutes les terreurs que le monde lève devant nous et qui ne sont que des rideaux de fumée. C'est l'esprit de crainte qui nous donne de nous méfier, non pas de Dieu, mais de nous-mêmes, et qui, par là, nous rejette dans les bras de Dieu en le suppliant de ne pas permettre que nous défaillions. Tout cela, nous le retrouvons dans les recommandations de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, l'apôtre marial des temps de lutte, recommandations qu'il adresse aux quelques prêtres qui l'ont suivi et qui vont poursuivre son combat après lui. Vous êtes petits, ils sont grands, ils, c'est-à-dire les adversaires. Vous êtes pauvres, ils sont riches. Vous êtes sans crédit, ils sont appuyés de tous. Vous êtes faibles, ils ont l'autorité en main. Mais le Seigneur vous a promis, je suis votre protection et votre défense, petite compagnie. Je vous ai gravé dans mon cœur, écrit dans mes mains, pour vous chérir et vous défendre, parce que vous avez mis votre confiance en moi et non dans les hommes, en ma providence et non dans l'argent. Je vous délivrerai des pièges qu'on vous tend, des calomnies qu'on vous impose, des terreurs de la nuit et des ténèbres qui vous intimident, des assauts du démon de midi qui veut vous séduire. Je vous cacherai sous mes ailes, je vous porterai sur mes épaules, je vous nourrirai à mes mamelles, je vous armerai de la vérité, de ma vérité, et si puissamment que vous verrez de vos yeux vos ennemis tomber par milliers à vos côtés. 1000 mauvais pauvres à votre gauche, 10 000 mauvais riches à votre droite. Je vous exaucerai dans mes prières, je vous accompagnerai en vos souffrances, je vous délivrerai de tous vos maux, je vous glorifierai de toute ma gloire que je vous montrerai dans mon royaume à découvert, c'est-à-dire face à face, après que je vous aurai comblé de jours et de bénédictions sur la terre. Cela semble un défi, et pourtant c'est une sagesse. Cela semble un défi parce que nous avons du mal à admettre que nos moyens les plus forts ne sont que des faiblesses face à la force de Dieu. Nous avons du mal à admettre que le bon Dieu nous demande de nous dépouiller jusqu'à ce point pour nous couvrir, nous enrichir, nous nourrir à un point que nous ne connaissons pas. Saint Louis-Marie Grillon de Montfort paraissait fou lorsqu'il prêchait ces choses-là et élut contre lui tous les sages, prétendus sages jansénistes. Mais quand vint la Révolution française, nous nous apercevons que ce sont les fruits de sa prédication, à lui et à ses successeurs et à ses collaborateurs, que c'est sa doctrine qui a fait lever les Vendéens par milliers, par centaines de milliers, et leur a donné cette gloire magnifique, au point que jusqu'au Concile, il n'y avait pas une famille en Vendée qui ne donnait pas à l'Église au moins un prêtre et une religieuse. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur douloureux et immaculé de Marie, soyez mon refuge, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.